Alors, ce Radio Barque, dont je rappelle qu'il est le dernier de la saison et que nous recevons aujourd'hui Nicolas Sainte-Cluc, je rappelle rapidement vos diverses casquettes. Monsieur Sainte-Cluc, vous êtes conseiller départemental dans l'Aude, également conseiller municipal d'opposition à Narbonne et conseiller communautaire donc au Grand Narbonne. Puis une quatrième ou une troisième bis, je ne sais pas, vous êtes porte-parole également de l'association J'aime Narbonne, ce qui signifie clairement, quand on parle de politique, que vous êtes lancé dans un processus de conquête du pouvoir municipal. Par quoi commençons ? Je vais vous laisser le choix, comme c'est la dernière, Monsieur Sainte-Cluc. Quel sujet souhaitez-vous aborder d'emblée ?
Alors, d'emblée, je souhaite aborder d'abord deux sujets qui ont été abordés par Michel, c'est-à-dire les contrats aidés quand même, puisque je suis aussi conseiller départemental, donc j'ai un peu étudié le sujet. Et ensuite, la nécropole, qui est quand même un sujet très, très intéressant qu'on a vu.
Est un sujet d'avenir, du passé et d'avenir.
Tout à fait. Il faut en faire quelque chose de positif, je pense. Alors, tout d'abord, sur les contrats aidés. Alors, c'est vrai que effectivement, Hélène Sandranier et Catherine Vossis ont indiqué qu'il y avait eu une atteinte des contrats aidés par l'État. Alors, il faut savoir que les contrats aidés, depuis 2012, il y a 350 000 jeunes qui en ont bénéficié et 50% ont abouti à un emploi sécur.
Voilà. Dans le secteur marchand.
Dans le secteur marchand, en grande partie. Et justement, le gouvernement, je crois que c'était au tout début, avait indiqué qu'effectivement, les emplois aidés, c'était une perversion de la politique de l'emploi, etc., et qu'ils allaient le revoir complètement, le refondre complètement. Et sont sortis les parcours emploi compétences, c'est le nouveau nom des emplois aidés, au mois de janvier 2018. Et pour être parfaitement honnête, puisqu'il faut être effectivement parfaitement honnête, c'est que les emplois aidés aujourd'hui sont financés à hauteur de 50% maximum. Avant, c'était 75%. On a aussi une baisse des dotations de l'État. Les collectivités, alors on dit qu'il faut effectivement aller maintenant sur la compétence et sur la formation. Les collectivités formaient déjà les personnes. Il faut savoir que chaque collectivité forme ses agents. En tout cas, c'est le cas pour le Grand Narbonne, c'est le cas aussi pour le département. Il y a un budget consacré pour former les gens. Ensuite, par contre, ce qui est évident, c'est que dans le nouveau contrat donc aidé, qui est le parcours emploi compétences, le secteur privé lucratif a été écarté parce qu'effectivement, il y avait un effet d'aubaine. Il y a beaucoup d'entreprises qui utilisaient les emplois aidés. Par contre, où ça pose réellement un souci, où on dit qu'il y a une baisse des emplois aidés, c'est pour les associations. Les associations avaient vraiment recours aux emplois aidés. Et lorsqu'on discute avec les associations, on va à toutes les assemblées générales, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, elles ont des problèmes pour boucler leur budget et qui sont en grande partie dues à cette baisse de subventionnement. Voilà. Mmh. Et du coup, elles vont être obligées tout simplement de faire moins de choses, alors que la situation aujourd'hui est toujours identique, c'est-à-dire qu'il y a effectivement besoin d'aider les gens. Il y a toujours autant de gens qui sont en difficulté, malheureusement. Il faut pas s'en satisfaire, au contraire. Mais plus ces associations, moi j'ai eu par exemple le CIDF il y a pas longtemps, j'étais à sa dernière assemblée générale, eh bien ils ont un bilan qui est effectivement très positif, c'est-à-dire qu'ils font beaucoup beaucoup d'actions. Mais quand c'est positif, ça veut dire que la situation ne s'améliore pas. Mmh. Et voilà. Et donc je crois que lorsque Hélène Sandranier et Catherine Vossis indiquaient qu'effectivement il y avait une baisse des emplois aidés et qu'il fallait faire très attention, oui, il y a une baisse parce que cette baisse est due aussi au financement. D'accord ? Après, effectivement, dire que ça doit reposer sur les collectivités, tout en demandant à ce que les collectivités aient une augmentation de leur fonctionnement de 1,2% pour les années à venir, c'est quand même assez extraordinaire.
Oui,
comment voulez-vous faire 1,2% d'augmentation du fonctionnement tout en embauchant de nouvelles personnes et dont le financement sera réduit entre 30 et 50%?
Oui, c'est-à-dire dépenser sans dépenser beaucoup plus.
C'est ça. Alors que c'était le secteur marchand, effectivement, donc lucratif, qui effectivement embauchait le plus.
Oui, une remarque, Michel, là-dessus ?
Oui, non, mais simplement que le secteur marchand embossait, donc il n'y a pas de remise en cause des contrats aidés du côté des secteurs marchands, mais par contre, effectivement, du côté des secteurs non marchands, collectivités et associations, le constat qui était fait par tout le monde, c'est qu'effectivement, il n'y avait pas de retour à l'emploi, en fait, des personnes en question, ce qui vient d'être dit par notre ami Nicolas.
Oui.
Et qu'en réalité, bon, le problème est simple, pour les associations dont il vient de parler, deux choses. Une, où effectivement ces emplois étaient des emplois d'intérêt évident pour les associations qui, pour les trois grandes d'entre elles, sont financées par les collectivités publiques. Et effectivement, ça donnait les moyens de maintenir ces emplois en question. Mais bon, le problème, c'est que on peut pas. Et donc, finalement, ça fonctionnait comment? Ça fonctionnait comme des subventions déguisées de l'État, et qui permettaient à des collectivités de dépenser moins pour faire fonctionner leurs associations, si je puis dire.
Voilà, bon,
donc, il y a de gros efforts à faire.
Un système biaisé, quand même, de toute façon.
De toute façon.
Voilà. Alors, oui, Nicolas Sainte-Cluc.
Alors, je vais pas répondre parce qu'on a suffisamment débattu. Sur la nécropole, là, j'estime que franchement, on a une chance extraordinaire à Narbonne. On crée effectivement le Narbovia, on peut l'appeler comme on veut, le Narbovia, il n'y a plus une grosse communication, parce qu'on ne sait pas encore effectivement quand il sera livré exactement, parce que vous savez quand même qu'il y a une partie de ce musée qui sera consacrée aussi à la recherche, la moitié, et on trouve un site
à quelques mètres,
n'existe nulle part ailleurs.
En France, sur le territoire de la France, vous avez effectivement
l'Italie, la Turquie éventuellement, mais de cette importance, on sera peut-être le deuxième, peut-être même le premier. On n'en sait rien aujourd'hui. Ce qu'on sait en tout cas, c'est qu'au départ, on devait trouver 500 tomes. On en a trouvé plus de 1100.
Enfin, on extrapole.
1100 tombes juste sur la zone qui va être concernée par les fouilles. Et d'intérêt, effectivement, international, avec un intérêt scientifique aussi évident, et qui permettra certainement d'alimenter aussi ce musée qui est juste à côté. Puisque, effectivement, il est voué, pour la moitié en tout cas de sa surface, à la recherche et avoir une dynamique à l'international avec des chercheurs, des archéologues du monde entier. Donc on a une chance fantastique.
Là, c'est une aubaine en quelque sorte.
C'est une aubaine, complètement.
C'est un signe de Dieu pour les croyants.
Pour les croyants. Tout à fait. On l'appelle comme on veut. Après, effectivement, se pose le problème du financement et du projet lui-même, donc du projet d'aménagement. Alors c'est vrai qu'il y a des financements à trouver, 6 millions d'euros, en sachant que l'État financerait
la moitié.
Donc il va falloir effectivement que les collectivités mettent la main à la poche pour faire en sorte que ce projet soit viable et qu'on fasse les fouilles. Après, la question va être posée. Hein. C'est le 12, je crois que c'est le 12 ou le 14 juillet qu'on va le décider au Conseil
municipal. 12 juillet à Narbonne, oui.
Et ensuite, donc savoir déjà si, un, est-ce qu'on fait les fouilles ou est-ce qu'on rompt le contrat et on ne fait pas d'aménagement, ou est-ce qu'on fait les fouilles et l'aménagement, hein, puisque si, voilà, c'est, la question est simple. Hein, c'est on fait ou on ne fait pas. Enfin, je me semblerais quand même totalement incompréhensible qu'on ne fasse pas les fouilles après une telle découverte. On ne serait pas responsable, me semble-t-il, même s'il y a des enjeux économiques aussi immédiats. Mais l'État finance à 50%, donc il faut trouver effectivement ces 3 millions d'euros. Éventuellement, ça fera un peu moins parce que, vous l'avez vu, il y a une présentation qui a été faite par Alenis, donc une société d'économie mixte, qui finalement représente l'ensemble des collectivités du Narbonnais, qui ne fait pas d'ailleurs de bénéfices sur un tel projet, mais qui sert justement à le mettre en place. D'ailleurs, je ne crois pas que Mouly, quand il a hérité de ce projet, était contre faire quelque chose sur la zone A. Je pense qu'au contraire, je crois que tout le monde était d'accord pour le faire. La seule chose, c'est que ce projet a un peu évolué. Le précédent était plus, on va dire, plus porté sur l'environnement et sur une qualité environnementale importante, notamment des panneaux photovoltaïques, etc. Et sur, ce qui reste aujourd'hui quand même l'hydraulique. Mais en tout cas, tout le monde est d'accord pour qu'effectivement ce quartier Est se développe. Maintenant, ce qui est certain, c'est que tenant la zone, le périmètre qui est concerné par des éventuelles fouilles, effectivement, on ne pourra pas faire cette zone comme elle a été...
Aussi grande que prévu.
Pas aussi grande que prévu, parce que les autres terrains qui seraient aménagés, sur lesquels il faudrait faire des fouilles parce que, tout simplement, la nécropole a un caractère exceptionnel, cette découverte, seraient financés entièrement par l'aménageur. Et là, ça serait minimum 6 millions d'euros par surface équivalente.
Oui, là, donc on n'est plus dans le réalisme.
On n'est plus dans le réalisme. Voilà. Et donc, effectivement, il faut s'occuper dans cette première phase, effectivement, faire les fouilles, aménager. Et après, eh bien, on reverra le projet. C'est peut-être une opportunité, d'ailleurs, d'avoir finalement des zones qui ne seront pas construites pour faire éventuellement un parc, faire des zones aussi de respiration, de balade. Je crois qu'on en a besoin aussi sur Narbonne, notamment si la fameuse salle multimodale aussi se faisait à quelques pas de ce lieu.
Voilà. Alors finalement, ce quartier reste promis à un avenir assez prestigieux d'une façon ou d'une autre.
Oui, à condition que tout le monde tire dans le même sens et qu'on ne perde pas de vue l'intérêt général.
Oui, un mot, Michel.
Non, mais ça, je suis ravi d'entendre cette dernière proposition de Nicolas Sainte-Cluc, parce que je me souviens du premier billet que j'avais fait immédiatement après cette découverte, qui disait en gros, mais voilà une opportunité extraordinaire dont il faut se saisir, et pourquoi pas imaginer à côté du Murena, la création, comme cela a été fait d'ailleurs, entre parenthèses, à Nîmes, à côté du musée, un parc archéologique, un jardin archéologique qui donne effectivement la respiration, et il donne une image un peu moins, comment dirais-je, bétonnée effectivement de cet ensemble urbain et muséal.
Moins minéral, tout à fait.
Une sorte de prolongation naturelle celle du musée.
C'est alors, ça, mais comme ça a été fait à Nîmes, d'une certaine manière. Mais on m'avait dit à l'époque, mais je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, que les chercheurs faisaient observer que bon, il y avait la couche était profonde, qu'il y avait de l'eau, en fait, que c'était difficile à faire, etc.
Il y a des problèmes d'inondabilité, oui.
Oui, tout à fait. Alors après, il faut ça. Enfin, pour l'instant, d'après ce que l'on sait, on ne pourra pas conserver ces fouilles telles qu'elles sont. C'est-à-dire qu'il faut, s'il y a des fouilles, on prélève, et après on rebouche.
Et on expose de nouveau.
Il n'y a plus rien, c'est-à-dire qu'on conserve. Parce qu'effectivement, il n'y a pas d'intérêt, si vous voulez, particulier à le visiter. C'est vraiment un intérêt scientifique. Hein. Ce sont quand même des lieux funéraires, hein. Donc avec des objets, toute une histoire aussi sur la manière dont on s'occupait de nos morts, et comment aussi vivait la société grâce aussi aux objets qui ont été laissés. Mais par contre, voilà, on pourrait ensuite, si on rebouche, là, faire des constructions sur cette zone-là. Et sur les autres zones, par contre, on ne pourra pas fouiller parce que ça coûte 6 millions d'euros, faire effectivement un jardin, pourquoi pas un jardin romain. Enfin, voilà, il y a plein d'idées à
en ménageant l'avenir, en quelque sorte.
Tout à fait.
Oui, il s'agit de... Voilà. Alors, dans ce quartier, il est prévu également, Monsieur Saint-Cluc, une salle multimodale. Vous avez déjà exprimé votre position là-dessus. Le permis de construire a été signé très récemment.
Tout à fait.
Alors, finalement, ça suit son cours.
Ça suit son cours. Alors,
enfin, au niveau judiciaire,
le problème qu'il y a, c'est que, vous savez, au départ, on devait avoir une audience fixée au mois de mai ou au juin sur le recours. Qui n'a pas eu lieu. Et le tribunal, pour l'instant, a fait un courrier en indiquant que l'affaire lui paraissait être prête à être plaidée, mais que tenant l'encombrement de la juridiction, il envisagerait d'évoquer ce dossier au premier semestre 2019. Vous comprenez du coup l'empressement de M. Mouly pour déposer le permis et entreprendre les travaux pour faire pression ensuite sur les juges, tout simplement, en indiquant regardez, ça y est, il y a beaucoup d'argent qui a été
mis sur la table. Il joue le fait accompli, voilà. Ce qui est de bonne guerre par rapport à sa position.
Tout à fait. Alors du coup, je pense que notre conseil va peut-être rappeler un peu avec courtoisie au juge ce qu'il avait indiqué dans le cadre du référé, à savoir qu'il n'y avait pas d'urgence à étudier le référé parce que il y avait une date tout à fait prévue pour étudier ce dossier au fond à partir du mois de mai. Comme ce n'est plus le cas, il va falloir peut-être le rappeler pour voir si le tribunal accepterait d'étudier ce dossier
un
peu plus vite, notamment début septembre, c'est-à-dire une fois que le permis serait purgé de tout recours. Et de tout recours éventuel, et je ne suis pas certain qu'il n'y ait pas non plus des actions contre ce permis de construire.
Oui, bon. Donc, à suivre.
Voilà,
à suivre.
Voilà, tout à fait. Après, vous savez, je ne vais pas revenir sur la genèse, mais on n'est pas contre, c'est pas être contre une salle, c'est contre cette salle, la manière dont elle est pensée. Il n'y a pas eu d'études justement sur sa viabilité et par rapport aussi à tout ce qui nous entoure et à la concurrence aussi des villes de plus grande importance. On sait très bien que ça peut être viable économiquement. Et surtout, c'est sur le fonctionnement. Et donc, vous savez que la ville vient d'ailleurs de signer avec l'État. Vous avez une belle communication.
Le 1,2%.
Le 1,2%, sachant qu'on ne l'a pas respecté, on ne l'a jamais respecté depuis ces 4 dernières années. Donc je ne sais pas comment on va pouvoir le respecter en ayant en plus un bâtiment de ce type qui va coûter au bas mot entre 1 ou 2 millions d'euros de fonctionnement chaque année. Même si c'est une délégation de service public, il faut savoir qu'une délégation de service public, si à la fin elle n'est pas rentable, c'est la ville qui doit amender, qui doit donner les sous pour clôturer le budget, pour faire que le budget soit équilibré. Donc voilà, il faut faire très très attention. Nous sommes des responsables politiques, sinon c'est l'intérêt général qui prévaut, et donc il ne faut pas l'oublier.
Oui, alors là, c'est la personne qui parle, c'est bien entendu le conseiller municipal d'opposition aujourd'hui, mais je rappelais tout à l'heure que vous êtes porte-parole de J'aime Narbonne, qui est une association qui n'a jamais caché que son objectif principal est la conquête de la municipalité narbonnaise.
Tout à fait.
Alors,
Jean-Claude, et tu oublies que M. Nicolas Saint-Cluc a annoncé qu'il souhaitait être celui qui tirait la liste en question.
Je veux dire les choses.
Ce qui suppose une décision de la section socialiste de Narbonne,
aussi.
Tête de file.
Voilà, mais au moins de ce point de vue...
Ce qui suppose d'abord une décision de Jem Narbonne, oui, de l'association Jem Narbonne.
Oui, aussi. Enfin, je ne sais pas quelle est la hiérarchie.
Et après, de notre entente, vous savez, on fait les choses tranquillement en discutant aussi. Hein, c'est pour ça qu'il n'y a pas de déclaration publique aujourd'hui. Voilà, on fait les choses tranquillement, on discute. J'avais vu qu'il y avait un dessin d'ailleurs très humoristique avec une ligne de départ avec plusieurs candidats. Voilà, sur votre blog, Michel. Voilà. Et donc j'en faisais partie, effectivement. On m'a fait bien plus maigre en plus que je suis. C'était flatteur. Voilà. Mais c'est pour courir peut-être plus vite. Mais voilà. Aujourd'hui, il y a peut-être moins de monde sur la ligne de départ. Il y en aura peut-être plus après, on n'en sait rien. Enfin, ce qui compte, c'est il faut discuter. Il faut aussi monter un projet. Surtout monter un projet. Et ensuite, se mettre en ordre de bataille pour effectivement les prochaines municipales.
Oui. Mais monter un projet, ça se comprend, c'est le contenu. Mais à un moment, il y a une nécessité d'une certaine tactique ou de tactique d'alliance ou de non-alliance. Oui, j'imagine que vous avez là-dessus déjà
évident,
des projets.
Il est évident que s'il y a trop de listes et si nous partons éparpillés, nous ne gagnerons pas les municipales. C'est une évidence. Donc il faut effectivement bien discuter, voir quels sont nos points d'accord, et plus que de points de désaccord. Souvent, vous savez, dans notre société, on a tendance à voir ce qui nous différencie, ce qui nous oppose, plutôt que ce qui nous fait aller dans le même sens. Je l'ai vu d'ailleurs, j'ai pu l'expérimenter d'ailleurs dans ma fonction de conseiller départemental dans le cadre des énergies renouvelables, puisqu'on a mis en place le diagnostic territorial partagé des énergies renouvelables. Il y a un gros travail d'effectuer justement de démocratie participative avec des comités de transition énergétique constitués de différentes personnes qui sont très antinomiques sur le papier. Et finalement, on arrive, par la discussion, à trouver des accords. Donc je crois que c'est un peu pareil pour les municipales. Il va falloir qu'on voit qu'est-ce que vous voulez, interroger aussi la population, les différents groupes qui existe sur Narbonne, hein, vous savez, il y a à la fois mais sur des groupes politiques, mais il y a aussi des groupes citoyens, de plus en plus de groupes citoyens qui ont aussi envie de faire des listes éventuellement et de peser sur Narbonne. Et ça se fait de plus en plus d'ailleurs, on le voit en France. Donc c'est assez intéressant de voir que finalement il y a des gens qui s'emparent du politique dans le bon sens du terme, c'est-à-dire la politique de la cité, qui ont envie effectivement d'avoir leur mot à dire sur la manière dont leur ville doit être gérée, dont elle doit évoluer.
Oui. Bon, les mouvements citoyens, vous dites que ça se renforce, Nicolas Saint-Cluc, même si c'est pas tout à fait nouveau. Je crois que ça a existé à Narbonne et ailleurs pendant un certain temps. Mais il y a aussi une nouvelle donne politique qui est la présence des listes, alors macroniennes ou macronistes, appelons-les comme on voudra, mais qui arrive, qui pèse un certain poids du fait que le président, c'est Monsieur Macron. Et c'est un interlocuteur. Vous disiez, on va discuter. Mais discuter avec qui? Est-ce que ces gens-là font partie des interlocuteurs possibles ou pressentis actuellement?
Rien n'est fermé. On va discuter avec tout le monde. Voilà. D'ailleurs, vous avec Didier Mouly, je pense pas, par contre, qu'on a besoin de discuter. Après, peut-être que Didier Mouly discute aussi avec En Marche, mais il faut discuter avec tous les mondes, tous les citoyens. Alors, certains sont peut-être En Marche, d'autres pas. Ce qui compte pour l'instant, c'est le projet de la ville. Il faut pas non plus aussi en faire une élection nationale. Bien sûr, il y a une volonté, me semble-t-il, d'En Marche de prendre un certain nombre de villes, en tout cas d'être présent sur les plus grosses, peut-être aussi sur les villes de moyenne importance comme Narbonne. Mais voilà, pour l'instant, rien n'est figé. Et je vous dis, si on part avec beaucoup trop de listes et éparpillé, ça sera un boulevard pour Monsieur Mouly.
Oui, on est quand même surpris du fait qu'un an et demi pratiquement avant, aujourd'hui, à Narbonne, c'est relativement silencieux. Je compare à la ville voisine Perpignan, où nous recevions il n'y a pas très longtemps le président des Républicains des Pyrénées-Orientales, qui lui nous disait que, enfin, les choses tactiquement et stratégiquement semblent déjà établies et les ambitions bien déclarées, Michel. Hein,
oui, parce que à Perpignan, effectivement, le député de Perpignan, pour aller vite, quoi, Robert Gros, qui était l'ancien adjoint du président de la métropole du Parti républicain, a décidé de partir au municipal sur une liste En Marche. Donc, alors, pour une raison simple, c'est comme dans l'Aude, c'est que si la révision constitutionnelle passe, il n'y aura plus que deux députés dans l'Aude. comme dans le, comme dans, dans les PO.
Tout à fait.
Et ce, forcément, la circonscription qui risque de tomber, c'est celle de M. Perea. Donc, est-ce que M. Perea n'aura pas la tentation, hein, d'anticiper cette situation et se porter candidat?
Mais voilà. C'est lui qui peut y répondre.
C'est ça. On a pu le penser à un moment donné. Peut-être que, voilà. Mais pour l'instant, j'ai pas vu de déclaration de sa part.
Oui, effectivement, de déclaration claire, nette et franche. Non, voilà. Autant on sait que Nicolas Sanclut est sur la ligne de départ, autant pour le reste, on ignore.
Aussi, d'ailleurs, Didier Mouly, c'est Nicolas Sanclut. Après, mais pour le reste, c'est...
Oui, alors, Monsieur Mouly
l'avait... Beaucoup de gens me demandent d'ailleurs si Monsieur Didier Mouly va se représenter. Alors, oui.
Lui, il avait dit clairement. Il a pas de souci. Y compris à ce micro, on lui a posé la question.
Oui, puis bon, Nicolas Sanclut aime bien avoir Monsieur Didier Mouly comme candidat en face, quoi.
Ils se connaissent bien.
Ils le connaissent bien.
Oui. Alors, je ne sais pas si c'est, c'est un avantage.
Alors, pour conclure, Monsieur Sainte-Cluc, un tout dernier mot sur le département. Vous avez fait des petites réunions. Là, vous êtes allé à la rencontre des citoyens. Comment ça se passe? Quel est l'accueil? Pas trop critique.
Non, l'accueil est plutôt bon. Après, moi, vous savez, je m'occupe surtout des énergies renouvelables. C'est quand même un secteur qui est important. Hein. Voilà, je crois que qui est consensuel, mais qui est par contre difficile à mettre en œuvre.
Oui, c'est ce que vous évoquiez.
Voilà, on a des ambitions, mais il faut se donner les moyens. Alors aujourd'hui, on est dans les actions. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place justement pour développer les énergies renouvelables, faire aussi en sorte que notre économie puisse en profiter, parce que quand on fait le calcul de ce qui se fait dans l'Aude sur les énergies renouvelables et ce qui reste sur les territoires au terme financier, c'est très très peu, c'est 9%. Donc il est temps de s'emparer de ce sujet, les collectivités, bien sûr, et aussi nos concitoyens, pour arriver effectivement à faire en sorte qu'on puisse lutter efficacement contre le réchauffement climatique, mais aussi qu'on puisse créer des emplois dans l'Aude liés justement aux énergies renouvelables, parce qu'on a vraiment beaucoup d'atouts et il faut qu'on fasse le nécessaire.
Voilà, ben merci Monsieur Sainte-Cluc. On retiendra ce chiffre que vous avez dit, 9% seulement. On s'attendrait à ce qu'il y ait beaucoup plus dans un département aussi ensoleillé et venté que l'Aude. Et bon, ben, je retiens votre chiffre.
9%, c'est-à-dire 9% de retombées économiques. Ensuite, au niveau de la dépendance énergétique, nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire tout ce que nous consommons qui provient des énergies renouvelables, c'est 20%. Si on fait rien d'ici 2030, ça sera 35%, parce qu'il y a des choses
qui se font.
Voilà. Et nous, on vise 60.
Ah, bon, voilà. Alors,
qu'on a vu que l'État, j'ai vu d'ailleurs un article aujourd'hui de Nicolas Hulot, qui est d'ailleurs conforme à ce que nous avions prédit, enfin, ce qu'on avait vu dans notre diagnostic sur les énergies renouvelables, c'est qu'on a un gros retard sur les énergies renouvelables chaleur, notamment sur le photovoltaïque, sur le thermique. Et il y a un plan, là, j'ai vu que Nicolas Hulot va faire un plan, il va notamment augmenter les aides en ce qui concerne les panneaux thermiques. Or, sur le thermique, on a vraiment beaucoup à faire dans l'Aude.
Bon, ben voilà, du pain sur la planche encore pour le conseiller départemental que vous êtes. Merci en tout cas à Monsieur Sainte-Cluc d'être venu clôturer cette saison. Je le rappelle que nous donnons rendez-vous donc à la rentrée pour ce Radio Barque, mais que pour les amateurs de contre-regard, j'en renvoie vers l'adresse habituelle de Monsieur Santo.
Oui, sur mon blog. Hein. Il suffit de taper contre-regard ou Michel Santo sur Kogel et puis...
Et on passera l'été en continuant à avoir ces contre-regards que nous retrouverons bien entendu à la rentrée. Merci à vous et à bientôt.
À bientôt. Au revoir.